C'est le journal avec vous Catherine Dutu, bonjour.
Bonjour Florian, bonjour à tous. Manifestation pour les uns, projection de films pour les autres. Les syndicats avanceront une fois de plus en ordre dispersé aujourd'hui pour le 1er mai. C'est flagrant à Paris, vous l'entendrez, alors que la convergence des luttes est encore un espoir alimenté à la gauche de la gauche.
Une offensive coordonnée hier contre l'accord sur le nucléaire iranien, à une dizaine de jours maintenant de la date butoir pour la décision américaine sortir ou non du texte de 2015. Donald Trump, sur la voie du retrait, a été soutenu à distance par le Premier ministre israélien. Il accuse les Iraniens d'avoir menti sur l'existence d'un programme d'armement nucléaire.
Tous cobayes, c'est le nom d'une marche organisée à partir d'aujourd'hui par des associations de défense de l'environnement et des associations de malades chroniques. Ils espèrent alerter les politiques de Paris à Bruxelles. À Londres, Theresa May, sous la pression des lords sur la sortie de l'Union européenne, comment les ratés du Brexit se conjuguent avec un décrochage de la croissance britannique, ce sera le thème du billet économique de Jean-Marc Chardon à la fin de ce journal.
Et puis la question du jour, la maladie d'Alzheimer est-elle une construction sociale? C'est la question qu'on posera tout à l'heure à Olivier Saint-Jean.
Ils font front commun à la SNCF, mais c'est en ordre dispersé que les syndicats vont défiler en ce 1er mai. La CGT appelle à 240 manifestations ou rassemblements un peu partout en France contre la remise en cause des acquis sociaux, la sélection à l'université, pour le progrès social, la paix, la solidarité internationale. Un mot d'ordre très large, vous venez de l'entendre, qui ne va finalement rassembler à Paris que les fédérations franciliennes de Force ouvrière, de la FSU, de Solidaires et de l'UNEF, défilées entre les places de la Bastille et d'Italie à partir de 14h30, quand, toujours à Paris, mais dans une salle du 14e arrondissement, la CFDT veut, elle, un 1er mai revendicatif et culturel avec la CFTC et l'UNSA. Projection d'un film italien qui met l'accent sur l'importance du dialogue social et de la négociation collective. Bref, toujours pas de convergence des défilés syndicaux ni des luttes, Catherine Pétillon.
Si dans les dossiers comme la SNCF, la fonction publique ou Air France, les syndicats font front commun, cela ne suffit pas à susciter une mobilisation nationale unitaire, pas plus que les coups récents portés par le gouvernement contre le paritarisme. La CGT, par la voix de son secrétaire général, Philippe Martinez, a appelé à une marche unitaire contre la remise en cause des acquis sociaux, la sélection à l'université et pour le progrès social, la paix et la solidarité internationale. Mais la centrale ne devrait être rejointe que par Solidaires. La CFDT n'est pas convaincue par l'appel à la convergence des luttes. Son secrétaire général Laurent Berger préfère assister à la projection de 7 minutes, un film du réalisateur italien Michele Placido sur le thème de la négociation collective, et cela dans le cadre d'un 1er mai revendicatif et culturel organisé avec l'UNSA et la CFTC. Du côté de Force ouvrière, le nouveau secrétaire général, Pascal Pavageau, se contentera de présenter lors d'une conférence de presse les grandes orientations à venir. Le remplaçant de Jean-Claude Mailly a reçu mandat la semaine dernière lors du congrès de FO pour mener une mobilisation interprofessionnelle et il devrait contacter ses homologues dans les prochains jours. En tout cas, son discours plus critique envers la politique du gouvernement que ne l'était celui de son prédécesseur pourrait le rapprocher de fait de la CGT. Si aujourd'hui la mobilisation devrait rester dispersée, les alliances pourraient bouger dans les semaines à venir.
Un 1er mai en ordre dispersé donc aujourd'hui pour les syndicats alors que reprend demain soir la grève en pointillés des cheminots. Une mobilisation qui s'essouffle à la SNCF, estime Jérôme Sainte-Marie, président de l'institut de sondage Pollingvox, alors que la bataille du rail est un test crucial pour les syndicats et le gouvernement.
Pour l'instant, les études d'opinion montrent plutôt un soutien à la réforme de la SNCF menée par le gouvernement. Elle montre également une popularité plutôt en baisse pour ses opposants, et notamment pour Jean-Luc Mélenchon. Et enfin, sur les mobilisations elles-mêmes, on constate plutôt une diminution du nombre de grévistes là où se passe le conflit principal, c'est-à-dire, encore une fois, pour la SNCF. Donc, les opposants à Emmanuel Macron, en tout cas ceux qui font le choix de la mobilisation sociale, abordent ce 1er mai plutôt en position de faiblesse. Pour Emmanuel Macron, la réforme de la SNCF, c'est un petit peu l'équivalent de ce qu'a été la grève des mineurs pour Margaret Thatcher dans les années 80. C'est-à-dire que c'est un peu la mère de toutes les réformes, et s'il réussit à briser la résistance de certains syndicats sur ce point, il peut espérer ensuite dérouler son plan de réforme assez radical, tout en étant très libéral, de manière assez rapide, assez efficace. Donc l'enjeu est énorme pour Emmanuel Macron. Il veut faire la preuve qu'il est capable de réformer vite et fort. C'est pour lui également la condition d'élargir sa base électorale vers les électeurs de droite, tout simplement.
Jérôme Sainte-Marie, président de l'Institut de sondage Pollingvox, joint par Stanislas Vazak. Elle continue à croire en une convergence des luttes. Près de 300 personnes ont répondu hier à l'appel d'une dizaine d'organisations politiques de gauche à se rassembler, place de la République à Paris, du parti communiste ONPA, en passant par Europe Écologie Les Verts, Génération, le mouvement de Benoît Hamon, Nouvelle Donne, le parti de Pierre Laroutourou, mais sans la France Insoumise ni le Parti Socialiste, tous appelés à soutenir les contestations sociales contre les réformes d'Emmanuel Macron et de croire donc en une convergence des luttes en ce mois de mai. Olivier Besancenot du NPA.
Tous ceux qui, depuis le début, les responsables gouvernementaux et puis les commentateurs qui aiment bien leur servir la soupe, qui nous expliquent que de toute façon le mouvement n'en finit pas de dégonfler, ils vont avoir des grandes surprises dans les jours qui viennent. Honnêtement, moi je lis pas dans le marc de café, mais là je vous l'annonce, ils ont parlé trop vite. Tous ceux qui vous expliquent que la grève à la SNCF, elle en finit pas de terminer, les chiffres de grève, ils remontent depuis quelques jours. Dans les campus universitaires, c'est pas terminé. Donc cette mobilisation, elle est devant nous, elle n'est pas derrière. Mais nous, on ne va pas gaspiller de la salive pour convaincre de ça. Nous, on le sait. Le problème, il n'est pas là, en réalité. Le problème, c'est comment, à partir des grèves et des conflits actuels, on arrive en effet à ce que ces grèves arrivent à agir ensemble, qu'elles aboutissent ensemble, c'est-à-dire qu'elles gagnent.
À quoi est-ce que vous voyez que ces mouvements de contestation sont en phase ascendante ?
Mais parce qu'on le sait, il y a les chiffres de grève. Voilà. La réalité sociale de la lutte de classe de ce pays ne s'arrête pas aux éditoriaux qu'on entend sur certains plateaux télé en boucle. Vous savez, les gens, ils sont pas cons, hein. Vous pouvez annoncer un mouvement qu'on finit pas de terminer, puis finalement, votre vécu, c'est pas le même. Vous savez, c'est comme les températures. Hein. Vous donnez, il y a la température, et puis il y a la température ressentie. Bizarrement, c'est pas la même. Et là aussi, on va avoir quelques surprises. Maintenant, c'est pas le mouvement inéluctable. C'est simplement, c'est une perspective concrète qui est vraiment devant nous.
Olivier Besancenot du NPA hier soir au micro de Stéphane Robert. Un 1er mai, cette fois sous le signe de la défense d'une union des nations européennes. Marine Le Pen et ses alliés en Autriche, aux Pays-Bas ou en Belgique se retrouvent à Nice aujourd'hui dans l'espoir d'une victoire des partis nationaux populistes aux élections européennes de l'an prochain. Avant ce rassemblement, la présidente du Front National déposera une gerbe devant une statue de Jeanne d'Arc à Cannes quand son père, Jean-Marie Le Pen, exclu du FN qu'il a cofondé, fêtera lui comme à son habitude le 1er mai à Paris, devant la statue équestre de Jeanne d'Arc.
7h07, la suite du journal avec vous Catherine Dutu sur France Culture et le secrétaire d'État américain Mike Pompeo qui juge authentiques les documents d'Israël sur l'Iran.
Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a dit hier avoir mis la main sur des archives nucléaires secrètes de la République islamique prouvant que Téhéran a menti en prétendant n'avoir jamais conduit de programme nucléaire à vocation militaire. Alors que Donald Trump doit dire dans une dizaine de jours s'il déchire ou non l'accord sur le nucléaire iranien signé en 2015. C'est une annonce très spectaculaire qu'a faite hier donc son allié, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. La correspondance d'Étienne Monin.
Comme à son habitude, l'intervention du premier ministre est théâtralisée, avec cette fois un impressionnant décor censé servir de preuve à conviction. Derrière Benjamin Netanyahou, il y a une armoire de classeurs noirs, verts et rouges et une rangée de DVD, plus de 100 000 documents, dit-il, récupérés par le renseignement israélien pour prouver l'existence d'un ancien programme secret d'armement nucléaire mené entre 1999 et 2003 par les Iraniens. La démonstration du premier ministre vise à montrer que les leaders iraniens ont menti au monde et à l'Agence internationale de l'énergie atomique. Les documents israéliens ont été communiqués à l'ONU et à plusieurs pays, a dit le Premier ministre. Il se dit maintenant persuadé que Donald Trump va prendre la bonne décision.
Étienne Monin à Jérusalem pour France Culture. Donald Trump qui a donc donné jusqu'au 12 mai prochain aux signataires européens de l'accord sur le nucléaire iranien pour réparer les affreuses erreurs, selon lui, de ce texte. Faute de quoi, le locataire de la Maison Blanche refusera de prolonger l'assouplissement des sanctions américaines contre Téhéran. L'Iran qui répète de son côté que ses projets en matière de nucléaire ne visaient qu'aux usages civils de l'atome. Téhéran accuse Israël de vouloir alimenter le soupçon à l'approche de l'échéance fixée par les États-Unis. Dans un autre dossier, source de discorde entre les États-Unis et l'Union européenne, Washington a décidé de maintenir jusqu'au 1er juin prochain l'exemption provisoire des droits de douane sur les importations d'acier et d'aluminium en provenance de l'UE, mais aussi du Canada et du Mexique. On y revient dans le journal de 7h30. Au moins 37 personnes sont mortes hier en Afghanistan dans une série d'attentats meurtriers à Kaboul et dans le sud du pays. Un double attentat suicide a frappé la capitale afghane tôt hier matin, faisant au moins 25 5 morts, dont 9 journalistes, 49 civils blessés. Une attaque revendiquée par le groupe État islamique. Dans un autre attentat suicide à Kandahar, cette fois dans le sud de l'Afghanistan, 11 enfants ont été tués. Et puis un journaliste afghan de la BBC a été tué par balle dans le sud-est du pays. Recrudescence de violence dans tout l'Afghanistan avant les élections législatives qui doivent se tenir le 20 octobre prochain. Tous cobayes, c'est le nom d'une grande marche organisée par des associations de défense de l'environnement et des associations de malades. Elles sont une centaine à dénoncer le rôle des produits toxiques dans l'augmentation des maladies chroniques et se donnent donc 2 mois pour parcourir une soixantaine d'étapes de Fos-sur-Mer à partir d'aujourd'hui jusqu'à Bruxelles, en passant par Paris pour faire pression sur les politiques en France et en Europe. Les explications de Léa Gedge.
Ils partiront de Fos-sur-Mer, le point de départ pour ce qu'ils appellent la marche pour la santé environnementale, une ville qui n'a pas été choisie au hasard, comme l'explique Sébastien Barlès, coordinateur du projet.
Fos, c'est le territoire le plus pollué d'Europe, qui cumule tous les risques de pollution, c'est une zone industrielle. Sur cette zone, il y a 2 fois plus de taux de cancer, 2 fois plus de maladies chroniques que sur d'autres territoires voisins. Et donc ça interroge et je pense qu'il faut faire réagir les pouvoirs publics. Donc l'idée c'est que Fos soit la ville emblématique de cette marche.
60 villes étapes et autant d'enjeux. Pollution de l'air, des sols, de l'eau, un large éventail de facteurs environnementaux qu'ils soupçonnent de contribuer à l'augmentation des maladies chroniques. Selon les chiffres de l'assurance maladie en 2016, elle touche plus de 10 millions de Français.
Ça fait peur et c'est dans 20 ou 30 ans qu'on verra les effets négatifs.
Marie-Odile Berthella-Geffroy est ancienne magistrate au pôle santé du tribunal de grande instance de Paris. Elle a notamment instruit le dossier dit du sang contaminé et celui de l'amiante. À ses yeux, la parole des victimes n'est pas suffisamment prise en compte par la justice.
Ce sont des maladies qui durent très longtemps et qui ont une incubation très longue. Donc c'est encore plus difficile de faire le lien de causalité entre cette pathologie, par exemple un cancer, et la pollution. Ça sera très long, ça sera très long. Alors pourquoi ? Non-indépendance de la justice, les experts qui peut-être ont des conflits d'intérêts et les lobbies.
Des lobbies industriels et pharmaceutiques qui, selon les associations, ont une trop grande influence sur les études et la législation. Michèle Rivasi est députée européenne Europe Écologie Les Verts et signataire de la pétition Tous Cobayes.
J'en ai marre de voir que c'est les lobbies qui nous gouvernent et qu'on a un État qui est impuissant. On a un État qui tape pas assez le poing sur la table. On sait que c'est nocif puisque on a une vraie crise sanitaire, on a une épidémie de cancer, d'obésité, de diabète et on fait rien. Il n'y a pas suffisamment de volonté politique pour aller du côté de la protection des citoyens, on va plutôt du côté de la protection des entreprises.
Les participants à la marche passeront par Paris le 30 juin avant de se rendre à Bruxelles pour être reçus, ils l'espèrent, par les ministres français et la Commission européenne.
Reportage signé Léa Gedge.